Bonjour tout le monde. Ça fait du vide hein, quand les enfants partent. Il y en a beaucoup ce matin. En tout cas, nous sommes heureux d'être ensemble. C'est la suite, je dirais fin de ce week-end, qui est sous la grâce de Dieu, n'est-ce pas hein, vous avez souvent vu, entendu ce matin, référence à la grâce. On a chanté ce qui concerne la grâce. C'est pas juste des slogans, c'est pas des slogans du tout. Hier, nous avons apporté différentes sessions. Alors, il y avait d'abord, on a vu avec 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, qu'il fallait travailler avec Dieu plutôt que pour Dieu. Ça, c'est déjà un énorme défi. Il est beaucoup plus facile de travailler pour Dieu et d'avoir plus besoin de lui que de travailler avec Dieu. On a vu que dans ce même verset, il a dit, et nous recevons pas la grâce en vain. Merci Taïna de nous rappeler cela. D'abord, il s'agit de recevoir la grâce. C'est tout un programme, de recevoir la grâce de Dieu. Mais Paul nous met un avertissement qu'il est possible de recevoir la grâce, mais de la recevoir en vain. Et nous avons essayé d'imaginer des scénarios où on peut recevoir la grâce, mais finalement elle est en vain. Alors on a parlé des Galates qui ont reçu la grâce et qui l'ont rejetée. On a parlé aussi de ceux qui reçoivent la grâce et après on la dissipe au point maintenant où on ne reconnaît plus ce qui est de grâce et ce qui n'est plus de grâce. On a parlé aussi des théologiens qui réduisent la grâce à des concepts qui sont des sujets de discussion, de débat, mais qui finalement ne changent pas les vies des gens. Donc on a essayé d'anticiper certains scénarios. Ça c'était hier matin. Hier matin aussi dans la deuxième partie, nous avons vu que Paul se plaisait dans ses faiblesses. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que les chrétiens font tout pour fuir leurs faiblesses. Ils font tout pour que Dieu les enlève, la faiblesse. Le sujet de beaucoup de prières des chrétiens, c'est « Seigneur, délivre-moi de ci ou de ça ». Et Paul dit « Vous n'avez plus de faiblesse, vous n'aurez plus la grâce ». Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma grâce s'accomplit. Et c'est quelque chose qui n'est pas prêché, n'est-ce pas, dans nos églises. On prêche la foi, on prêche l'autorité, on prêche être victorieux, on prêche la force. Mais tout cela n'attire pas la grâce. C'est la faiblesse qui attire la grâce. Et vous devez apprendre à vivre vos faiblesses, qui font partie de la vie. D'apprendre à vivre vos faiblesses avec la foi, sachant que dans vos faiblesses, dans vos calamités, dans vos outrages, dans vos persécutions, dans vos détresses, c'est la liste de Paul, que la grâce de Dieu peut se manifester. Alors ça dépend ce qu'on veut. On veut de la gonflette, on veut la grâce. On veut la mousse, on veut la substance de Dieu. J'ai passé ma vie à implanter des églises. À commencer avec rien, ou très peu, ou avec un gros problème. Et on s'est retrouvé dans la faiblesse tout le temps. Et pourtant, vous savez, la carrière ministérielle, elle est très prometteuse si tu réussis, et puis si tu prêches bien, si tu es un bon animateur, et là on te propose une assemblée qui est consistante, plusieurs centaines, voire dans certains pays des milliers de gens, et puis là vous avez un bureau, mais avec une couche comme ça de tapis, vous voyez, vous vous enfoncez dans le tapis. Je suis allé dans un bureau en Amérique, dans une grande église, et puis je retrouvais plus mes pieds, tellement que la moquette était épaisse, vous voyez. Et ça c'est le top des tops. Si tu veux être dans le ministère, c'est de vraiment être le pasteur d'une grande église. Tu as des beaux salaires, tu as une voiture, de, pas de service, mais de fonction. Ce n'est pas la même chose. Moi je n'ai jamais voulu ça. Moi, vous gardez ça pour vous. D'être le gérant de la bénédiction de hier ne m'intéresse pas. Vous m'entendez? Parce que souvent, des hommes et femmes qui commencent par la foi, qui sont prêts à tout pour Dieu, eh bien, ils commencent à connaître la réussite et ils ne sont plus les hommes et les femmes de foi qu'ils étaient quand ils avaient 30 ans ou 40 ans. Parce qu'ils sont devenus les gérants de la bénédiction d'hier. Et ils sont plus capables de voir une œuvre de Dieu se faire aujourd'hui. S'il y a une chose qui m'a toujours gardé proche de l'humilité, Et comptant sur la grâce de Dieu, ça a été le fait qu'on était dans la faiblesse. Ne fuyez pas vos faiblesses. Répondez avec foi et vous allez voir, vous allez entendre ce murmure dans votre cœur. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ah, moi, j'ai toujours aimé avoir un tas de problèmes et ne pas avoir de solution. Parce que quand... Il y a des gens qui m'ont dit, mais Vincent, après tant d'années d'implantation de l'Église, quelle est ta méthode? Ma méthode? Eh bien, j'ai une méthode, moi. Mais je vous la livre aujourd'hui, mais vous ne dites rien à personne, c'est un secret. Alors, il voulait ma méthode en 3, 4 et points, vous voyez? Ma méthode, c'est... Je regarde à tout ce que je n'ai pas. Je lève le regard et je dis, au secours! Ah, c'est ma méthode. Et vous savez, ça marche. Ça marche. Parce que Dieu dit, eh bien, je fais grâce aux humbles. Mais les arrogants et les orgueilleux, non. Je n'ai pas là. Dieu n'est pas là avec les beaux pasteurs qui sont beaux et toujours le plus beau costume et plus belle présentation. Et Dieu dit, bon, vous n'avez pas besoin de moi? Allez-y, faites. Alors moi, j'ai rencontré des pasteurs de grandes églises qui sont des hommes et des femmes de grande humilité. Soyons clairs. Mais vous savez, la réussite parfois, eh bien, agit contre cette grâce de Dieu. Alors, on est dans ce thème-là de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous avons chanté aujourd'hui. Et puis, si quelqu'un est venu parmi nous, et j'ai entendu que plusieurs étaient là pour la première fois, eh bien, comprenez qu'ici, on ne joue pas à la religion. Ici, on n'est pas dans une notion de cérémonie, de rite, et puis de doctrine et de dogme. On est des hommes et des femmes qui veulent vivre la foi d'une façon réelle, telle que les premiers chrétiens l'ont vécue. Les gens disent, mais qui sont les vrais chrétiens? Il y en a tellement de différents bords, mais qui sont les vrais? Ben, la réponse, elle est simple. Les vrais, c'est les premiers. Ils n'ont rien hérité, pas d'école du dimanche, pas de parents chrétiens. Non, ils ont tous entendu un message, ils ont tous dû faire un choix. Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre ma vie en suivant ce rabbin juif qui s'appelle Jésus, qui parle de choses qui nous dépassent totalement? Ou bien est-ce que je veux rester dans le confort de ma religion toute faite? Quel courage d'accepter de suivre Jésus, sachant qu'ils allaient tout perdre. Ah, il ne faut pas penser que tout est sur un plateau. Quand on donne sa vie à Jésus. On ne va pas forcément aujourd'hui tout perdre comme les premiers, mais ça va demander du courage pour vraiment dire, eh bien, moi, je n'ai pas peur qu'on sache que je suis quelqu'un qui suit Jésus. Alors, on a vu que pour travailler avec Dieu, on reçoit la grâce, mais pas en vain. On a vu aussi hier matin qu'il faut réagir par la foi au milieu de nos faiblesses, pour voir cette grâce de Dieu qui va répondre à votre situation. Alors, je mets en parenthèse Ne vous approchez pas de Dieu uniquement par le moyen de vos besoins. Chose qui est très tentante. De dire, il y a ça qui ne va pas. Seigneur, s'il te plaît. Rappelez-vous que Paul a prié une première fois, Dieu, enlève-moi cet ange de Satan. Enlève-moi ce problème qui me soufflette, qui me harcèle. Enlève-moi ça. Dieu est resté silencieux. Deuxième fois, il prie. Bon, Seigneur, tu ne m'as pas écouté la première fois, mais tu m'écouteras la deuxième. Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi ça. Le ciel est muet. L'apôtre Paul, et Dieu ne lui répond pas. Troisième fois, il prie. Seigneur, c'est la même prière pour le même problème. Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi ça. Dieu répond. Et pas comme il aurait voulu. Il dit, je ne l'enlèverai pas. Je le laisserai là, ton problème. Mais tu apprendras à recevoir ma grâce. Et tu traverseras à travers ce problème et tu en sortiras victorieux. Tout un programme aujourd'hui. Ça, c'était un résumé de la journée d'hier. Aujourd'hui, bien, nous allons passer de Paul à l'épître aux Hébreux. Et on va lire un passage de Hébreux 12, versets 14 à 17. Parce que si on peut recevoir la grâce, mais en vain, on peut aussi se priver de la grâce et ne pas la recevoir. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Recherchez la paix avec tous, dit Hébreux. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Recevoir en vain, c'est recevoir. Mais ici, c'est même pas recevoir. C'est se priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, impudique. C'est français, mais on ne l'utilise pas souvent, hein, pudique. Non. Débauché, ma version le dit. Et à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, pourquoi ou quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors ici, Hébreux nous apporte cette autre dimension de se priver de la grâce de Dieu. Et en fait, ayant dit que c'est une possibilité que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, il nous donne les trois choses qui vont faire barrage à la grâce de Dieu qui veut pénétrer dans ta vie et dans votre église. Des barrages, des écrans, des choses qui ne vont pas permettre à la grâce de toucher votre vie. Il est très clair par rapport à ça. Le mot « privé » déjà nous parle, ce mot qui est traduit « privé » en français, de passer à côté d'une occasion. C'est ce que ça veut dire. D'arriver en retard ou rater un rendez-vous. Ça, c'est une nuance aussi de ce mot. Ou encore de décrocher dans une course et la perdre. Tout ça, c'est ce même mot, se priver. Se priver de la grâce de Dieu, c'est d'échouer dans sa vie chrétienne, disons-le. S'il n'y a pas la grâce de Dieu qui opère dans ta vie chrétienne est un échec. On parle ici de quelque chose qui est fondamental à sa vie avec Jésus, avec sa foi en Christ. Alors les trois choses qui vont créer l'écran, le barrage à la grâce, la première, il dit, c'est une racine d'amertume. On va remettre le verset, le passage, si vous voulez bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que, numéro un, Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume. L'amertume, c'est se sentir amer. On se sent amer parce qu'on se sent victime. On se sent victime de quelqu'un. Parfois, ce quelqu'un, ça peut être même Dieu. Combien de gens dans notre population autour de nous reprochent à Dieu qu'il n'a pas répondu à une prière lorsque un proche était malade? Et ensuite, quand la personne bien-aimée est décédée, alors c'est la faute à Dieu. Et ils porteront cette amertume toute leur vie et ils ne vivront pas la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont nourri cette racine d'amertume. Parfois, ils se sentent victimes de quelqu'un d'autre. Une personne leur a fait un coup. Et pendant des années, ils vont nourrir cette amertume. Ils deviennent des gens amers. Et ils vont te parler de ce qui s'est passé il y a 30 ans, comme si c'était hier. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est vivant en eux. Ça continue son sale travail de détruire la vie intérieurement de la personne. Parfois, et je l'ai entendu, hélas, mais les gens se sentent victimes même de leur église ou bien de leur pasteur. Ça, c'est à la mode aujourd'hui. On ne m'a pas fait ci. Quand j'avais besoin, on ne m'a pas appelé. On m'a abandonné. On m'a exploité. Combien de fois j'ai entendu des choses comme ça? Parfois, il y a peut-être une raison. D'autres fois, c'est juste un prétexte. En tout cas, s'il y a cette amertume, tu peux essayer de te justifier. Tu peux essayer de dire, eh bien, j'ai raison de penser comme ça. J'ai raison de me plaindre. J'ai raison de nourrir cette amertume. Mon ami, si tu fais ça, ne pense pas que la grâce de Dieu s'approchera de toi. Elle ne peut pas, parce que chaque fois qu'elle veut s'approcher de toi, eh bien, elle va frapper cette chape de béton qui empêche la grâce de Dieu d'arriver jusqu'à toi, parce qu'il y a amertume là. Il y a amertume. Hébreu nous dit que c'est une racine d'amertume qui produit des rejetons. Ça veut dire que c'est une situation active. L'amertume, c'est actif. Parce que ce que tu ressens dans un domaine va commencer à pousser comme un cancer dans d'autres domaines. Et puis non seulement ça, mais parce que tu es infecté toi-même par cette amertume, eh bien tu vas commencer à affecter les autres autour de toi. C'est un peu comme dans mon jardin en Australie. Si je vois quelques mauvaises herbes, qu'est-ce que je fais? Je les arrache tout de suite. Si je ne les arrache pas, d'ici quelques jours, tout le jardin sera couvert. C'est comme ça. Même quand l'herbe ne pousse plus, les mauvaises herbes, ça continue à pousser. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh oui. Moi j'ai l'antise des mauvaises herbes. On est allé voir un magnifique jardin de fleurs dans un parc. Et Denise, elle était là, en train d'observer les fleurs et les sentir. Quelles sont belles ces fleurs! Moi, je voyais toutes les mauvaises herbes autour et je commençais à les arracher. Tu vois. J'aime pas les mauvaises herbes, moi! Quand je vois dans mon jardin, il y a une mauvaise herbe! Je lâche! J'aime pas les mauvaises herbes. Parce que ça pousse, vous voyez? Ça reste pas tranquille. C'est comme Covid, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de Covid? Comment l'oublier, Covid? Ah ben écoute, tu peux mettre ton masque, tu peux laver tes mains 10 fois par jour, tu vas l'attraper quand même. Tu vois, ça infecte les autres. Ils savent pas se contenir, toutes ces infections, ils ne restent pas tranquilles. Ils ne restent pas tranquilles dans un domaine de ta vie. Ils vont infecter toute ta vie. Ta pensée, tes relations, ton cœur, tes émotions, tout est affecté par l'amertume. il n'y a plus possibilité que la grâce arrive jusqu'à toi. Le sens de ce mot est aussi, c'est une image. Tu viens t'acheter un nouveau t-shirt rouge et tu le laves avec une superbe nappe blanche. Et votre nappe va sortir quoi? Rose. Elle est infectée. Elle est infectée. Donc ici, combien même les chrétiens se justifient dans leur amertume? Je me souviens d'une réunion dans une église où de temps en temps je prêchais dans le sud de notre pays, de France. Et une fois, il y avait un gars qui était dans l'église qui était vraiment assez froid, vous savez, ça existe, hein. Et il était assez froid. Et un jour, en plein culte, il s'est levé et il a dit, désormais, vous allez tous me vouvoyer. Non, mais ça va pas. C'est comme s'il disait, Alexis, tu m'as blessé. Désormais, tu me vouvoieras. Lui qui ne m'a jamais vouvoyé de sa vie. Non, mais pourquoi ce comportement bizarre? Pas parce que tu es amer. C'est tout. C'est tout. C'est parce que dans ton cœur, tu as du ressentiment. On m'a blessé. On a mal fait. Alors je les aurai. Comme la pub pour la Maïf. Pour la Maf, je crois. La Maf. Je l'aurai. Je l'aurai en étant froid. Je l'aurai en étant désagréable. Je l'aurai en étant refermé sur moi-même. Je l'aurai. Ben oui. Et après, et ben si c'est le cas. Et si c'est le cas dans une église où il y a l'amertume qui commence à pousser un peu partout, parce que ça peut aussi arriver dans une église, eh bien, à partir de ce moment-là, bye-bye la grâce. Hein. Là, elle viendra plus. Elle viendra plus. Non. Deuxième chose, alors là, ici, ce sera un peu plus délicat d'aborder ça. Ça, c'était facile. Premier point facile. Hébreux commence à être plus difficile, là. On revient à Hébreux chapitre 12. Et on découvre que deuxième, c'est veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, à ce qu'il n'est ni impudique. Débauché. Vous connaissez ça? Débauché. C'est un mot fort en français. Le dictionnaire en ligne donne le sens du mot débauché. Une décadence personnelle dans le plaisir sensuel, dont sexuel, mais aussi l'alcool, la nourriture. Alors c'est vrai que on consulte pas le dictionnaire en ligne, hein, mais on consulte le lexicon grec pour savoir quel est le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Eh bien, le mot qui est traduit « débauché » dans le Nouveau Testament le grec, eh bien, signifie uniquement « sexuel ». Ne rentre pas dans le côté « alcool » ou bien dans le côté « nourriture ». Alors, j'ai des statistiques ici. Bon, ce qui nous rassure, c'est que ça vient d'Amérique. Ça nous rassure. On peut toujours botter en touche en disant, c'est les Américains, ça. Tu vois? Je suis désolé, Chris, hein, mais il n'y a que toi qui es concerné ce matin. Oui. Oui. Mais finalement, ce qui se passe en Amérique nous rattrape ici en France, hein? Vous êtes prêts? Alors ici, les Américains, ils ont des systèmes de sondages pour arriver à des statistiques qui nous font quand même un peu gratter la tête. Il est estimé qu'aux États-Unis, 18% des pasteurs, presque 1 sur 5, sont accros à la pornographie. 1 sur 5. Le mot débauché, en fait, dans le grec, c'est pornos. Et de ce mot, nous avons évidemment pornographie. Pour les pasteurs en dessous de 45 ans, ce n'est pas mieux. C'est un pasteur sur 4 accro de la pornographie. S'ils persistent dans cette débauche, ils rateront le rendez-vous de la grâce. C'est Hébreux qui le dit. Non seulement eux, mais tous ceux qui sont au bénéfice, si je peux dire bénéfice, de leur ministère. Mais pour tous ceux qui ne sont pas pasteurs ici aujourd'hui, le prochain statistique vous concerne. Il est estimé que plus de 50% des chrétiens pratiquants aux États-Unis se gavent régulièrement de pornographie. 50%. Le rendez-vous avec la grâce est perdu. C'est choquant. Et pourtant, ces mêmes personnes vont se réunir pour prier et chanter que Dieu nous envoie le réveil. Non mais, il ne faut pas se moquer du monde. Tu fais tout pour que la grâce n'arrive pas, et après tu dis, Seigneur, envoie-nous la grâce. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Le manque de manifestation de la grâce de Dieu dans nos pays, écoutez-moi bien, est dû en partie au péché sexuel parmi les chrétiens. Ah, je croyais que ça n'allait pas susciter des alléluia. Il ne faut pas oublier l'histoire de David et Bathsheba. Une histoire épouvantable qui a conduit à la mort d'un bébé, des mensonges terribles et le meurtre d'un homme. Père de famille. Au départ, le péché sexuel de David. Paul était confronté à ça dans les églises. C'est lui qui était à l'origine de l'église des Corinthes. Mais l'église des Corinthiens, la ville de Corinthe était réputée pendant le premier siècle comme étant une ville qui était donnée à l'immoralité sexuelle. Et Paul se retrouve avec une église qui, à la fois, veut être une église qui dépassait les autres églises dans les dons spirituels, dans les exercices des dons de l'esprit. Et à côté, Paul devait gérer des situations sexuelles dans la vie de l'église, où il y avait un jeune homme qui couchait avec la femme de son père. Et Paul n'a pas dit, il faut qu'on passe un petit moment, tu sais, il faut comprendre sa situation, et ils sont tellement proches en famille que, tu sais, ils s'aiment tellement que ça se déborde, quoi. Non, mais il faut comprendre, tu vois, il faut comprendre. Non, il n'y a pas à comprendre. Non, il n'y a pas à comprendre. Tu sais, Paul, il a dit, mais non, ben, virez cet homme de l'Église. Virez cet homme de l'Église. Oh non, Paul, quand même, non, tu sais, on a besoin de chaque membre, hein, parce que, tu sais, il y a la dîme, tu vois. Non, oublie la dîme. Les gens qui font ça, on n'a pas besoin d'eux. Au contraire, c'est... Au milieu du peuple de Dieu. C'est... Et oui. Et Paul a même dit, ne mangez même pas avec des gens chrétiens qui sont dans l'immoralité. Ne mangez même pas. Ouh, il était dur, hein? Mais Paul, tu sais, il faut essayer de comprendre. Mais Paul ne veut pas comprendre. Il comprend qu'une seule chose, c'est qu'un esprit laxiste, tolérant, qui permet ce genre de choses et qui accepte ce genre de choses sans qu'il y ait un désir de régulariser sa situation, d'arriver à un changement de cœur et changement de vie, une vraie repentance profonde. Si ça, ce n'est pas là en place, eh bien, Paul dit, ne mangez pas avec des chrétiens qui font ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous n'êtes pas content, eh bien, plaignez-vous à l'auteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Par contre, c'est moi qui a pris une position avec un couple qui était à La Réunion. Taina, c'est pas toi. Non, je veux te rassurer. Alors, il y a un dimanche matin, il y a un couple qui est arrivé. Ensemble, comme ça, boum, je ne connaissais pas. Donc, à la fin, je suis allé les voir et j'ai discuté avec eux. Et j'ai dit, ben, écoutez, bienvenue dans notre église. Comment est-ce que vous avez appris que nous sommes là? Et puis alors, ils ont dit qu'ils connaissaient quelqu'un. Et j'ai dit, ben, c'est super. Donc, vous êtes un couple marié. Il m'a dit, ben, non, pas vraiment. Ah, bon, ben, écoute. J'ai dit, alors, quelle est votre situation? Et ils étaient un peu embêtés. Nous vivons ensemble. Ah, je suis d'accord. Vous êtes chrétien. Oui, on est chrétien. Donc, vous voulez évoluer vers une régularisation et puis d'être en règle devant Dieu et de vous engager mutuellement dans votre foi. Éventuellement. Alors, vous êtes des divorcés ou... Ben non, pas vraiment. Vous êtes mariés? Elle, oui. Ah d'accord. Et donc vous vivez ensemble, elle est toujours mariée, et puis et vous voulez vous mettre en règle avec Dieu? Oui, on va voir ça par la suite. J'ai dit, écoutez, vous me demandez de cautionner l'adultère? Vous voulez que je vous accueille comme si de rien n'était? Et je suis en train de dire à tous les autres, c'est bon ce qu'ils font. Allez-y, faites. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est une violation de ma propre conscience et de la parole de Dieu que je lis. Que vous faites là. Si vous venez et vous me dites, mais pasteur, on n'est pas en règle et on est vraiment mal et malheureux dans notre situation et aidez-nous s'il vous plaît pour entrer dans ce que Dieu veut. Si là vous avez un ami, là vous avez quelqu'un qui va vous accompagner. Mais si vous me dites, non c'est comme ça, on est très bien comme ça, on n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit, alors là non, hein. Moi je rentre pas dans votre truc. Alors j'ai dit au couple, j'ai dit, écoutez-moi bien, parce que très vite, les gens de cette église sont très accueillants, très vite, les gens vont s'habituer à vous et vont être heureux de vous avoir, et quelque part, très vite, ils vont accepter quelque chose qui est inacceptable. Alors je leur ai dit ceci, aujourd'hui on est dimanche, vous avez la semaine pour en parler, et pour demander aussi à Dieu ce qu'il en pense, si vous pouvez encore l'écouter. Et si vous voulez continuer dans notre assemblée, et si vous voulez que je vous aide à régulariser votre vie, vous m'appelez avant samedi matin. Si je n'ai pas de votre appel samedi matin, je ne veux plus vous voir. Moi, je dois répondre à Dieu. Excuse-moi, hein. Ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave, parce que moi, je dois répondre à Dieu, pas à l'opinion publique. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, téléphone sonne. C'est la dame. Écoutez, pasteur, on a parlé ensemble, et on voudrait vraiment se mettre en règle avec Dieu. Je vous aiderai. Je les ai reçus, je découvre qu'elle était en séparation avec son mari, mais toujours mariée. Lui, il avait fait le tour, vous voyez. bon chrétien comme il était. Et il dit, bon, d'abord, on va assurer le divorce pour que les choses soient claires. Et après, on va vous préparer pour le mariage. Ils ont suivi les conseils. Ils se sont mariés et ils ont établi un couple chrétien solide. Si moi je commence à brouiller un peu les lignes, eh bien Dieu va dire, Vincent, ne t'attends pas à ma grâce. Faut pas penser que je vais donner ma grâce comme ça, hein. Surtout que le péché sexuel, c'est dit précisément dans Hébreux 12, le péché sexuel, tu peux oublier la grâce. C'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une église. C'est fondamental. C'est numéro 2. Et numéro 3. Eh bien, numéro 3, c'est, on va reprendre le passage. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, non, c'est encore le verset avant. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Profane, profane, profane. Le mot qui est traduit profane par hébreu signifie ce qui est de la terre, ce qui n'a aucune valeur spirituelle, l'opposé du sacré. Une chose qui manque toute affinité à Dieu. Il parle aux chrétiens. Il dit, premièrement, les chrétiens, pas d'amertume dans votre cœur, pas de péché sexuel dans votre vie intime et pas de profane. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tellement attaché aux choses qui n'ont aucune valeur spirituelle qu'après, le spirituel, eh bien, prend vraiment la seconde place. Et le personnage qui est montré en exemple, c'est Ésaü. Non, Ésaü est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Vous vous rendez compte, Abraham, le père de la foi, qui a un petit-fils, Ésaü, qui est profane. Il était l'aîné de jumeaux. Son petit frère, c'était Jacob. Et voilà qu'Ésaü, l'homme de la terre, il rentre d'une journée difficile, il est fatigué, il a faim, il a le droit d'aînesse, le privilège d'être l'aîné des deux. Mais il n'en a rien à faire avec ça. Ça ne l'intéresse vraiment pas, ce que Dieu a dit concernant l'aînesse. Et puis il a dit, tu fais quoi là? Ben, tu cuisines quoi? Bien, je fais des lentilles. Des lentilles? Mais j'aime les lentilles, moi. C'est mon plat préféré. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Quelqu'un qui aime des lentilles au point où c'est le plat préféré, il a besoin d'une thérapie, je trouve. Bon, les lentilles, c'est bien si on met des choses dedans pour donner un peu de goût, tu vois. Mais le gars... Il est prêt à vendre, franchement, il vend son droit d'aînesse que Dieu lui donne, que Dieu l'accorde, petit-fils d'Abraham, homme, père de la foi, eh bien, il va vendre son droit d'aînesse, son statut spirituel. Il le vend pour un plat de lentilles parce qu'il est fatigué et il a faim. Là, vous avez dit, il va où, là, avec ça, Vincent? Vincent, tu vas où? Eh bien, le problème, c'est que y a des gens qui sont chrétiens, et franchement, la vie spirituelle ne les intéresse pas beaucoup. Ah ben, ils sont chrétiens. J'espère que j'ai le tampon pour rentrer au ciel, c'est tout, tu vois. Mais alors là, je préfère la bourse. Ah, la bourse. Qu'est-ce que j'aime, la bourse? Et puis, j'aime la politique. Et j'aime la maison, et j'aime mon entreprise, et j'aime la fête, et j'aime surtout les vacances. Alors là, je suis malheureux quand je rentre un mois d'août, fin de vacances, et puis j'attends désespérément les prochaines vacances. Ils sont tellement dans leur truc matériel de la terre que le côté spirituel éternel, ça ne les intéresse vraiment pas. Ils vendent les choses précieuses que Dieu leur a données, ils le vendent pour rien du tout. Pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Et puis plus tard, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le droit d'aînesse, il y a une deuxième partie, c'est que le droit d'aînesse nous parle des terres qu'il va hériter du père. Et le droit d'aînesse nous parle de son autorité dans la famille en tant qu'aîné. Il reçoit tout ça et Ésaü est prêt à tout vendre pour son plat. Mais la deuxième partie d'être l'aîné, c'est de recevoir la bénédiction du père. Et la bénédiction du père est une prophétie concernant son avenir. Et alors il a perdu son droit à la bénédiction aussi. Et il nous est dit dans ce passage qu'Ésaü est revenu plus tard et il a tout fait pour retrouver. Il savait qu'il ne pouvait plus reprendre son statut d'aîné, mais au moins, si seulement le père pouvait lui donner une prophétie pour son avenir. Et il a pleuré, il a demandé, mais il ne pouvait plus revenir à un cœur de repentance. Ne faites pas la bête avec votre vie spirituelle, chers amis. Il y a tellement de choses dans nos vies qui peuvent paraître anodines, tellement de choses qui sont normales, naturelles, et qui sont, en fait, profanes, et vous enlèvent de votre vie spirituelle. Oui, je me souviens d'une femme qui commençait à venir régulièrement à notre assemblée là, à l'Ermitage, Taïn. Et elle est venue plusieurs fois. Bon, en parlant avec elle, j'ai compris qu'elle avait un caractère difficile. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, un jour, on ne l'a plus revue. Alors, j'ai fait mon devoir de pasteur, je l'ai appelée. Pas avec grande joie, mais je l'ai appelé quand même. Tu vois. Allô, oui, bonjour. Et puis je dis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, mais tu comprends, j'ai changé de boulot et maintenant je suis très pris. Et puis les dimanches matins, c'est ma seule occasion toute la semaine de promener mon chien. Quoi? Tu as fait un choix? Je passe mon dimanche matin avec mon chien plutôt que Dieu. Moi, je dis, vire ton chien. Mais c'est mon toutou. Je l'ai vu depuis qu'il est tout petit. Je m'en fous. Et Dieu alors? Et Dieu? Honnêtement, les choses qu'on ne doit pas entendre parfois. Hein? Terrible. Terrible. En tout cas, j'arrive à la fin de mon message. Les gens qui ne sont pas prêts à vendre ce que Dieu leur a donné, les gens qui ne sont pas prêts à vendre leur droit d'aînesse et la bénédiction qui leur revient et la grâce de Dieu qui peuvent continuer à couler. Eh bien, j'ai lu un bel article, là, il y a quelques semaines. Et j'ai voulu le partager avec vous. Et c'est un article qui nous parle de Johnny Cash. Est-ce que vous avez entendu parler de Johnny Cash? Ça n'a rien à voir avec des espèces, hein, au cas où vous vous posez la question. Johnny Cash était... Ben, je vais vous lire l'article. Johnny Cash est l'un des artistes country les plus influents de tous les temps. Connu dans le monde entier pour son ingéniosité musicale, la profondeur de ses paroles et sa popularité auprès de tous les genres musicaux. Mais c'est la foi chrétienne profonde de cette icône de la musique country, son audace spirituelle et sa compréhension durement acquise du pardon et de la grâce de Dieu qui ont défini sa vie. Il a quitté la maison pour rejoindre l'armée de l'air et fonder une famille avant de connaître le succès dans la musique country. Au sommet de sa gloire et en proie à une addiction dévastatrice aux amphétamines, le compositeur a trouvé Dieu dans une grotte dans le Tennessee à l'automne 1967. Après sa conversion, Cash, décédé en 2003, a consacré son temps et ses ressources à la promotion de l'Évangile, accompagnant le célèbre évangéliste Billy Graham dans ses tournées dans les années 70 et sortant des albums de gospel. Son audace lui a coûté cher. La chaîne ABC a contesté ses références à sa foi et a annulé son émission télévisée hebdomadaire en 1971. Donc, c'est pas récent que quelqu'un va payer un prix lourd pour annoncer sa foi. Son fils, John Carter Cash, a déclaré ceci concernant son père. Il se moquait d'être annulé. Il défendait ses convictions. C'était dans sa nature. Et puis, qu'avait-il à perdre? Il avait déjà touché le fond. Il savait qu'il avait beaucoup à rendre à Dieu. Est-ce que, cher ami, tu sais que tu as beaucoup à rendre à Dieu? Il y aura ceux qui viendront et qui te diront, n'en parle pas, ne fais pas des vagues, ne remue pas les choses. Eh bien, si tu les écoutes, la grâce s'arrêtera là. Si tu fais comme Johnny Cash et tu te moques du prix que tu dois payer pour ta foi, eh bien, la grâce reposera sur toi. C'est un choix. C'est un choix. Quel est ton choix aujourd'hui? Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu ou est-ce que tu veux être l'ami de ce monde? Ce monde qui ne te fait pas de cadeau d'ailleurs. Aujourd'hui, je t'invite, cher ami, de te débarrasser de ton amertume une fois pour toutes. D'arrêter ton péché sexuel. Peu importe qui tu es et ce que tu fais. Tu es le seul qui connaît les profondeurs de ce que tu fais. Et je t'invite à arrêter de mettre Dieu en deuxième place. De mettre Dieu à la première place de tes priorités et de tes engagements. Et si tu fais ces trois choses-là, tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu peut venir et se reposer sur ta vie. Je vous invite à prier avec moi maintenant.